Bonjour Marie-Ange Gagnon et Aurélia Luchère. Vous êtes du collectif Marthe et vous venez de présenter la pièce ce soir, Tiens ta garde, au théâtre du Point du Jour. Au début de la pièce, ça commence par un cours d'autodéfense pour contrer des millénaires de violences légitimes envers les femmes.
Bah, c'est ça en fait. On a travaillé avec une prof d'autodéfense qui s'appelle Hello. Comme notre personnage de la pièce. Et on a fait plusieurs stages avec elle, on a travaillé sur tout le long des répétitions, et en fait, on a cherché pendant longtemps comment rentrer dans le livre d'Elsa Dorlin, donc « Se défendre, une philosophie de la violence », qui est le livre duquel on est parti. Et au bout d'un moment, on s'est dit « Notre porte d'entrée, ça va être nos stages d'autodéfense avec cette prof, et en fait, on va partir dans la fiction à partir de là. » Voilà.
Oui, parce que les cours de self-défense sont prétexte à un voyage à travers l'espace-temps. Et à partir justement de ce livre d'Elsa Dorlin ?
Oui, exactement. Alors ça, c'est une petite habitude, entre guillemets, qu'on avait déjà explorée dans notre précédent spectacle qui s'appelait Le Monde Renversé. Comment d'une fiction zéro ou de ce qui se passe là au plateau, d'un coup, on peut ouvrir une petite porte, tirer une petite ficelle et ouvrir une fenêtre et hop, avoir affaire à une autre fiction dans un autre temps, une autre époque, avec une autre dynamique, d'autres personnages. Et du coup, nous, c'est ces allers-retours-là qui nous intéressent parce que souvent, nos matières de recherche, pendant très longtemps, sont théoriques. Et donc, du coup, on se pose toujours la question de comment incarner ou comment mettre du corps dans ce qu'on apprend, en fait, qui sont vraiment des données, donc là, philosophiques, mais souvent aussi historiques ou autres. Et donc, c'est en faisant un peu le virage à chaque fois un peu serré entre la fiction aujourd'hui qu'on raconte et ces époques-là, qu'on parvient à créer du sens. Et puis Elsa Dorlin, c'est ça, en tout cas se défendre. C'est une multiplicité de chapitres qui concernent tous le sujet de l'autodéfense, mais pris dans une géographie et une temporalité, voire même dans une dynamique politique, toute très différente. Vous voyez ?
Comment fonctionne votre collectif ? Vous êtes 4, peut-être 5 avec Maybe Vareille. Est-ce que chacun lit sur le sujet ? Il y a de l'improvisation ? Comment ça se passe concrètement ?
Oui, puis aussi, il faut dire que vous ne vous cantonnez pas à juste jouer. Vous êtes aussi chacune autrice.
En fait, le collectif Marthe, c'est Ito Medawi, qui donc là n'est pas avec nous ce soir. Aurélia et Clara Bonnet également. Et Maybe Vareille, en fait, nous a retrouvés pour la création de Tiens ta garde. Le collectif Marthe, c'est vraiment donc à la toute base une volonté de nous quatre actrices de s'écrire nos propres, effectivement, fictions, nos propres rôles, nos propres pièces, pour aussi nous permettre de s'offrir notre propre métier. Et donc voilà, on a une cinquième comparse pour Tiens ta garde qui est Maybe Vareille, et on a également une équipe au complet, mais par exemple notre dramaturge qui nous a beaucoup suivis sur Le Monde Renversé et Tiens ta garde, Guillaume Caillet, qui est par ailleurs auteur. Donc là, effectivement, Tiens ta garde, il est écrit à 6 personnes et où, effectivement, ces 6 personnes sont, en tout cas les 4 au plateau, elles sont travaillées par ce qui va se passer au plateau et c'est par des improvisations au plateau, par le fait que tout le monde au plateau ait évidemment lu la matière de recherche de départ. C'est ces allers-retours-là qui vont être faits sous le regard de notre dramaturge et là, Dito qui était dehors, pour écrire une fiction à 6 personnes, quoi, et qu'elles tiennent la route sans que personne de ces 6 prenne le lead sur une autre.
Et quand on a travaillé, quand on fait des impros, quand on a essayé de trouver notre dramaturgie et qu'on a un peu un squelette, qu'on a des textes, qu'on a écrit des trucs, qu'on refait plusieurs fois des scènes, qu'on les retravaille, là on appelle un autre copain qui s'appelle Morin Hollès et qui vient nous regarder, qui est en fait l'œil extérieur de la dernière phase de travail. Une fois qu'on a fixé un peu des trucs, et ben lui il vient et il commence à nous faire travailler un peu des trucs de jeu, de rapport, que nous on ne peut pas faire parce qu'on est dedans. Voilà.
Vous vous inspirez d'une grande matière littéraire, bibliographique pour donc cette pièce. Mais dans le jeu, on sent beaucoup de liberté, c'est quelque chose d'assez déjanté. Du coup, quelles sont vos références peut-être scéniques ?
En fait, on n'a pas pensé à des spectacles en particulier pour faire ce spectacle. Par contre, on avait en effet une grosse bibliographie, une filmographie importante, des podcasts, plein de sources différentes en fait, des documentaires, des fictions, des BD, enfin vraiment plein de trucs. Mais sur fait, c'est vrai que c'est bizarre maintenant qu'on en parle, j'ai jamais pensé à ça, mais on se disait pas, théâtralement, on voudrait que ça ressemble à ça ou ça, ou on n'avait pas de pièces en exemple. Enfin, c'est vraiment trop bizarre, c'est vrai qu'on est parti sur plein d'autres trucs, et pas des exemples de théâtre.
Ça vient de vous, peut-être, aussi, beaucoup ?
Non, je pense qu'il y a plein de trucs à prendre partout, puis on en a pris certainement plein. On a eu des profs super, on a rencontré des gens super, mais c'est vrai que je crois qu'on fonctionne comme ça, en fait. On prend des trucs partout. Et peut-être qu'on trouve que c'est plus marrant d'écouter des podcasts, je sais pas. Non, mais en vrai, c'est ça qui s'est un peu passé, quoi.
Alors, sur scène, on convoque de nombreux personnages célèbres. Donc, ils viennent de France, d'Amérique, d'Angleterre. Je vais en citer juste trois. Colbert, le Ku Klux Klan, les suffragettes. Alors, comment vous avez réussi à les inclure tous dans cette pièce? J'imagine que vous aviez énormément de personnages possibles à mettre. Et comment arriver à articuler cette cohérence? Alors, ils surgissent dans le spectacle comme dans un rêve. On a le décor qui se transforme. Il y a énormément de choses, énormément de personnages. Donc, comment vous avez construit ça?
Ça dépend lesquels, en fait, parce qu'il y en a, effectivement, c'est des allusions. Colbert, par exemple, toute la séquence sur les peintres. En même temps, c'est des grandes figures, évidemment. On n'a pas besoin de présenter Colbert, on n'a pas besoin de présenter Velázquez, on n'a pas besoin de... Enfin, Monet. Et en même temps, on nous les a appris à l'école comme étant, le grand peintre de telle période, parce que son clair-obscur, son travail sur le tissu et la perspective, et blablabli. Sauf qu'en fait, nous, par exemple, ces personnages-là, on s'en sert aussi pour dire qu'il y a une facette, mais aujourd'hui, je vous apprends rien, tout le monde en a entendu parler, mais une face B, en fait, à la cassette, quoi. On a des monuments partout qui s'appellent Colbert, et puis en fait, c'est quand même pas mal de rappeler que c'est l'élaborateur du code noir. Ça permet juste de savoir où est-ce qu'on met les pieds et dans quelle, entre guillemets, république on vit, quoi. Et après, il y a des personnages plus importants, enfin, qui prennent plus de place, là, dans Tiens ta garde, comme John Locke, effectivement, un membre du KKK. Alors là, c'est carrément un de nos personnages qui travaille sur une thèse sur les suffragettes. Ça, c'est parce que vraiment, c'est Elsa Dorlin, pour le coup. C'est toute la recherche sur l'autodéfense, et c'est quelle histoire, de quelle autodéfense, à quel moment. Et à un moment donné, par exemple, les suffragettes, on ne pouvait pas passer à côté de cette période historique. On s'est même dit à un moment donné, mais là, ça prend presque énormément de place. Est-ce qu'on va faire un autre spectacle vraiment que sur les suffragettes, enfin, et du coup, on a trouvé la tactique que ce soit Solange qui fasse une thèse sur les suffragettes. Et ça, il s'avère que c'est aussi parce que ça répond tout bonnement à notre problématique, au sujet, et que ces femmes-là ont vraiment fait œuvre de tactique et de savoir-faire à une époque où elles étaient une répression policière forte, en fait, et où elles ne faisaient que réclamer le droit de vote, quand même. Voilà, il y a des personnages comme ça qui sont directement issu de l'espèce de cosmogonie d'Elsa Dorlin, quoi.
Oui, et puis sur le fond, on peut quand même dire que c'est une charge quand même contre le patriarcat, au sens prédateur, conquérant et dominant.
En fait, je crois que c'est surtout une charge contre un système de domination, et elle parle pas particulièrement que de patriarcat dans son livre, en tout cas. Nous, en fait, comme on a des lectures un peu féministes, et donc on se dit aussi que le patriarcat, il est dans un plus grand système, qu'est-ce que c'est, nanana. Donc en fait, elle démonte un peu tous les systèmes de domination, quels qu'ils soient, à différentes périodes, à différents endroits, et surtout, elle parle aussi de l'autodéfense blanche. C'est-à-dire qu'il y a des groupes d'autodéfense de gauche et de droite, en gros, hein, je vulgarise un petit peu, mais c'est pour ça qu'il y a le KKK, puis c'est pour ça qu'aussi qu'il y a le Black Panther. Enfin, il y a plein de groupuscules très différents, qui ont agi soit dans l'ombre, soit dans la lumière, qui ont eu recours à l'autodéfense. Et en fait, c'est un peu une histoire assez sombre, l'histoire de l'autodéfense, de ce que raconte Elsa Dorlin. On avait oublié que les voisins vigilants, oui, c'est aussi de l'autodéfense, quoi. Mais du coup, c'est pas une question de bien, pas bien, c'est une question que c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus obscur que ça, et elle essaye de parler de tout ça. Qui a le droit de se défendre, contre qui, c'est quoi la propriété privée, qui a le droit au port d'armes, à quelle époque et contre qui, pour se défendre, mais de quoi? Et du coup, c'est un peu ça qu'on essaye de toucher. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi de patriarcat à des moments, surtout la relation que Hello, elle a avec son père, avec les personnes de son cauchemar.
Alors, peut-être par rapport à la violence légitime, moi, ça m'a fait penser à un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, de David Dufresne, Un pays qui se tient sage, où justement, il revient sur toute la période où il y a eu Gilets jaunes et les violences des deux côtés. Et donc, il y a tout un travail dessus où il interviewe ces différents personnages. Et donc, on parle beaucoup de ce qu'est la violence légitime et ce qui ne l'est pas. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Ouais. Alors, il est vraiment génial, ce documentaire. Et en fait, ce qui est assez beau aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui sont interviewés, on ne sait pas qui c'est. Mmh. Et il y a juste à la fin où il y a le nom des personnes et tu fais « Ah, ok, d'accord ». Et après, je vois pourquoi tu parles de ce film qui, en fait, revient sur toutes ces luttes dans les rues là, qu'il y a eu dernièrement et tout. Et surtout sur les violences policières, sur la manière dont on se fait matraquer. Et en vrai, Ça, on ébauche un tout petit peu dans la partie sur les suffragettes avec les gendarmes, qu'est-ce qu'ils se sont permis, comment est-ce qu'ils ont violé des femmes dans la rue parce qu'elles étaient suffragettes, comment ils les ont tabassées, comment ils ont profité de plein de trucs. C'est une époque donnée, à un moment donné, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se passe différemment. Et après, là, dans un pays qui se tient sage, ce qu'on comprend, c'est surtout que c'est des forces de l'ordre qui ne sont pas à égalité avec les gens de la rue, et du coup, qui se retrouvent à se faire défoncer parce qu'on n'a pas les mêmes droits. On n'a pas les mêmes ports d'armes, on n'a pas les mêmes droits de se défendre. On ne peut pas riposter et comment. Pour ça, je trouve qu'il est assez génial ce documentaire et il fait assez écho au livre d'Elsa Dorlin, surtout sur son passage sur qui a le droit à se défendre et c'est quoi la légitime violence et qui a le droit au port d'armes et tout ça.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions. Votre pièce se joue jusqu'au samedi 5 février et ensuite vous allez partir en tournée. Je crois que ça fait au moins 2 ans que vous essayez de faire partir cette pièce en tournée, si j'ai bien compris.
Exactement, on attend, c'est reporté. Et là, en fait, on a un petit créneau quand même d'un mois de tournée à travers la France et on est trop contentes.
Et puis, il y a un grand engouement.
Bon, nous, on a un engouement en tout cas. Après, on ne sait pas, on verra bien. Mais oui, du coup, on est contentes de pouvoir enfin le jouer parce qu'on l'avait mis au frigo pendant longtemps.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.